t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Oh, le rouge est allumé dans le studio, le mic est open. C'est à toi, André Muller. Bah ok, j'y vais. Fais-moi une place, ma chronique en cinémascope aujourd'hui, c'est maintenant sur Radio Judaïka. Mes chères grandes oreilles du 102.9, allez, un petit bon alsacien Muller en version Muttersprache. Salut, pissant, me wie geht's, mesdames, schöne Frühjahr. Hit schlupfe mir in Stern mit unserem Gast de Antoine Becker. Je vous le fais en français, j'ai invité un mireur d'étoiles, un passionné des cieux, des galaxies. Son nom, c'est Antoine Becker. Antoine est émerveillé, fasciné par, par la science des astres, des corps célestes, un passionné de l'infini, à l'infini. Antoine, depuis sa tendre enfance, a accumulé un savoir impressionnant du cosmos. Salut Antoine Becker, je suis ravi de t'accueillir et très heureux qu'on fasse une émission ensemble.
Très heureux aussi, merci pour l'invitation.
Bah, ça me fait plaisir, on va apprendre plein de choses avec toi. Hein. Comment tu gazouilles dans ton monde ?
Comment je gazouille ? J'observe le ciel depuis ma plus tendre enfance, dès que le ciel est beau en Alsace justement.
Tu crois que tu es né des cieux ?
On vient tous de quelque part, je dirais, mais après d'où, ça, pour l'instant, on ne sait pas encore.
Ouais, ben on parlera tout ça tout à l'heure. Ce monde que tu connais si bien, le seul objet céleste qui abrite de la vie, nos vies, c'est notre Terre.
Pour l'instant, oui, c'est notre Terre et on n'a pas d'autre endroit où vivre pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre très soin.
Ouais, mais les gens ne font pas assez attention, je
malheureusement,
pense.
Malheureusement, non.
Hein, on fait c'est pas vrai assez que, attention. C'est dommage, ouais.
On commence à prendre conscience, mais c'est un peu tard.
C'est un peu tard, ouais.
C'est un peu tard,
ouais,
justement.
Ouais. Ouais. Elle va se révolter, cette Terre, tu penses ?
Ça commence déjà, hein.
Ça commence
avec
déjà.
Avec les catastrophes qui se passent un peu partout, ouais, le réchauffement ouais, climatique,
vrai.
Ça commence.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Antoine, toi qui étudies les étoiles, les galaxies, tu penses que la vie aussi peut-être ailleurs, enfin cette question, je te l'ai déjà demandé, poser la question, je vais aller un peu plus loin. Ça fait quand même rêver les hommes depuis l'Antiquité, hein, la vie ailleurs.
Ah, depuis des millénaires, hein, depuis très très longtemps, même déjà depuis la préhistoire, on a retrouvé des dessins où ils dessinaient des étoiles.
Les pharaons, tout ça.
Oui, les premiers astronomes, les pays arabes, il y a plusieurs milliers d'années, c'était déjà le cas.
Qui ont fait des écrits là-dessus.
Des écrits là-dessus, etc. Ouais, ouais.
Et Antoine, tu es jeune, tu as à peine la trentaine, je crois. Hein. D'où te vient cette passion de mireur d'étoiles, de regarder, le regardeur de l'au-delà ? Ça te vient d'où, ça, Antoine ?
Depuis tout petit, en fait, mes parents m'achetaient souvent des vieilles cassettes VHS où il y avait des documentaires sur l'astronomie en général. Et mon grand déclic, ça a été en 97, hein, où il y a eu la grande comète de Hale-Bopp qui est passée dans le ciel.
C'est quoi Hale-Bopp ? C'est deux découvreurs ?
C'est deux découvreurs qui s'appellent Alan Hale et Thomas Bopp qui ont découvert cette comète en 95. Et elle était déjà très très grosse, on la voyait déjà très bien en 95 au télescope. Et ils ont dit, ça va être la comète du siècle, et c'était le cas. Aujourd'hui, on pense que c'était la plus grosse comète du 20e siècle.
Mais on l'a pas vu qu'un jour, on l'a vu pendant des mois et des mois, je crois.
18 mois, on l'a vu à l'œil nu, pendant 18 mois à peu près.
Et alors, tu quittais pas cette comète déjà à l'âge de 6 ans, tu la regardais, tu la mirais
tous les soirs. Dès qu'il faisait beau, à peine le soleil couché, on la voyait à l'œil nu sans problème, même en plein Strasbourg.
Ah ouais, fascinant. Pas au crépuscule, même déjà quand le...
Dès que le soleil est couché, au crépuscule, sans qu'il fasse nuit, on la voyait déjà arriver. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'observer à la vieille lunette astronomique au planétarium de Strasbourg.
Ah oui, génial, mais on en reparlera un peu tout à l'heure.
Oui,
c'est la lunette de Tintin, extraordinaire.
Exactement.
C'est moi, j'adore cet endroit.
Genre,
alors, tu parlais de cette comète. La comète, qu'est-ce qu'elle dégageait c'était comme une étoile filante. C'est quoi? C'est du gaz derrière?
Pour faire simple, en fait, une comète, c'est comme un astéroïde qui tourne autour du Soleil, mais c'est pas fait de roche, c'est fait de glace carbonique et de poussière. Et quand cette comète se rapproche du Soleil, en fait, la glace se sublime en vapeur, en gaz et en poussière. Et en fait, elle dégage plein de choses. Ce nuage de poussière, il est soufflé par les vents solaires.
Waouh !
Et c'est ce qui fait la queue de la comète, justement. Et c'est ce qu'on voit dans le ciel, en fait. C'est pas un objet atmosphérique, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour du Soleil, qui se déplace au fur et à mesure des jours et des semaines dans le ciel.
Et aujourd'hui, elle est où, cette comète? Elle s'est désintégrée dans le ciel, dans l'espace, ou elle est où? Elle continue son chemin,
Elle continue son chemin, et en 1997, elle était proche de nous, enfin proche du Soleil, donc on la voyait bien, et là maintenant, elle est repartie dans les confins de l'espace, et vu qu'elle s'est tellement éloignée du Soleil, elle ne dégage plus de poussière et de vapeur, donc on la voit quasiment
plus. On la voit quasiment plus, ouais.
Et je crois qu'elle reviendra... Si je dis pas de bêtises, je dirais dans pas avant 15 000 ans. Donc,
ah ben on sera plus là, hein,
on
je
sera
crois.
Plus là, dis-toi, non.
Dis-toi avec ton jeune âge.
Non, malheureusement.
Et alors, parlons un petit peu cette passion. Qui c'est qui t'a transmis? Qui c'est qui t'a piqué pour Est-ce que c'est ton père, Denis Becker, qui t'a donné l'envie de mirer les étoiles?
Oui, c'est mon père, surtout, qui était très intéressé par ça. Il faisait déjà un peu de photos en argentique du ciel. Mais il a souvent photographié cette comète, justement. Et c'était lui qui m'a acheté beaucoup de documentaires en vidéo. Ma mère aussi, elle m'en achetait un petit peu. Et il était surtout abonné à une revue, la revue Ciel et Espace. Et je lisais souvent ce magazine, et il m'amenait souvent au planétarium, justement.
Ouais, mais justement, j'allais parler de ton père, Denis Becker, qui était un journaliste caméraman comme moi, journaliste, un grand reporter de la rédaction, où j'ai travaillé pendant plus de 30 ans à ses côtés. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un que j'appréciais vraiment beaucoup. Quand on parlait en tournage, il me parlait toujours de l'au-delà, des fantômes.
Oui, il était assez spirituel.
Ouais. Il était extraordinaire. Et c'était vraiment une très belle personne. Il avait un peu le look Alain Delon, comme ça, un peu beau gosse. Et puis, je me souviens, quand on partait en tournage, tout le monde le regardait. C'était quelqu'un qui aimait les maquettes d'avions également, je crois.
Ah, mais il m'a transmis ce petit hobby aussi. Ouais.
Et aujourd'hui, il marche certainement sur toutes les étoiles de la galaxie et il doit bien rigoler là-haut, j'imagine. En tout cas, je lui envoie beaucoup d'amitié parce que j'aimais beaucoup Denis Becker.
On pense tous à lui.
Et il est parti beaucoup, beaucoup trop tôt.
Malheureusement, ouais, c'est toujours les meilleurs qui partent trop tôt.
Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Alors, et parle-moi un petit peu de ce... Tu parlais tout à l'heure de ce planétarium où ton père t'emmenait, dans cette coupole-là, qui s'ouvrait comme ça la nuit, avec un petit moteur, le truc arrondi, et après tu avais une lunette. Tu regardais déjà tout petit là-dedans.
Oui, on a eu le privilège d'aller plusieurs fois là-haut, on a pu observer la comète, justement, et là c'était incroyable, parce qu'on arrivait à voir les geysers de gaz qui sortaient du noyau de la comète, et on voyait la queue qui se déployait. On avait regardé aussi Jupiter, Saturne à l'époque. Ça fait longtemps que j'y suis plus allé, mais je m'en rappelle encore très bien aujourd'hui. Ouais, et c'était fantastique.
Je crois qu'ils font toujours des visites guidées. Tu peux toujours aller...
par exemple, moi, je fais partie de la SAFGA, qui est une association d'astronomie. Et de temps en temps, on a accès à cette lunette.
D'accord. Et en fait, cette coupole, elle est très ancienne. Elle date des années 1880, je crois.
Oui, je crois que c'est à peu près ça.
C'était l'empereur Guillaume qui avait construit ça parce qu'il voulait en faire une belle vitrine astronomique de la ville de Strasbourg.
Et à l'époque, il n'y avait pas autant de lumière qu'aujourd'hui, autant de pollution lumineuse. Donc, on pouvait se permettre de l'utiliser.
Parce que cet endroit, l'observatoire, c'était quasiment la race campagne. Il n'y avait pas de luminosité.
Mais aujourd'hui, maintenant, c'est quasiment le centre-ville.
Ah oui, c'est
le
centre-ville.
Le ciel est très pollué.
C'est juste encore une sorte de musée. À toi ouvert.
On peut l'utiliser pour les planètes et la Lune, ça c'est pas un problème. Mais après,
et comment elle est la Lune quand tu la regardes dans cette lunette?
Alors là, on voit même plus la Lune en entier. Là, on peut se déplacer carrément sur la surface de la Lune. On voit les cratères, les montagnes, les mers lunaires.
Tu vois le LEM, non? Tu vois des fois.
J'allais faire la remarque. Non, malheureusement, c'est pas possible.
Tu vois pas ça. Alors moi, il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. Quand tu vois, par exemple, les images, moi j'étais fasciné quand j'étais gamin, quand j'avais 12 ou 10 d'années, quand tu voyais Apollo sur la Lune, tout ça. Mm-hmm. Mais en fait, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que derrière, quand tu vois les images, derrière, tout était schwarz, comme ça, noir. Tu voyais aucune étoile. Alors je me demandais des fois s'ils n'étaient pas dans un studio ou si c'était vraiment la vraie vie.
C'est ce que j'en pense, malheureusement. Ouais. Mais non, ça c'est lié à l'exposition de l'image, vu que le sol de la Lune, il reflète énormément de lumière du Soleil.
Tu veux dire, c'est comme un miroir?
On peut voir ça comme ça. Ouais. En fait, pour simplifier la chose. Et en fait, vu qu'il reflète beaucoup de lumière, le sol est très lumineux. Et vu que le sol est très lumineux, ça surexpose l'image. Et le problème, c'est que les étoiles, vu qu'elles émettent tellement peu de lumière, elles sont cachées par la lumière du sol lunaire. Le ciel apparaît noir.
Et aujourd'hui, avec le nouveau matériel, la nouvelle technologie, tu penses que si on y était là-haut, on pourrait voir les étoiles à l'arrière-plan ou serait toujours pareil?
Le sol lunaire... serait toujours trop lumineux, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de filmer le ciel directement sans filmer le sol de la Lune, ou peut-être filmer le ciel, mais du côté de la face cachée,
où il n'y a pas de lumière.
Ouais. Et là, on verra le ciel étoilé, mais ce serait fantastique, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas de pollution.
Ouais, parce que quand on voit aujourd'hui des images de Mars, on peut s'y balader avec ce qu'ils ont mis comme instrument là-haut.
Et là,
on voit des fois des couchers, des levées d'étoiles, on y voit des étoiles extraordinaires.
On voit même la photo de la Terre prise depuis le sol martien.
Ah ouais, donc c'est un petit point comme ça, bleu.
Petit point bleu pâle, hein, pour ceux qui ont la référence, ils comprendront.
D'accord. Ouais. Alors, revenons un petit peu sur cette planète bleue, Antoine, qui est massive. La Terre pèse 600 milliards de milliards de milliards de kilos, de tonnes, comme tu veux. Et cette masse, comment elle tient dans l'espace? Comment ça peut tenir comme ça dans un... Tu vas me parler de la gravité, bien sûr.
Ouais,
mais c'est quoi la gravité?
La gravité, c'est une force universelle. C'est-à-dire que tout objet qui a une masse a cette gravité, en fait. Même une petite boule de 1 cm a une force de gravité, mais qui est infime. Mais après, il faut comprendre que la Terre, ce n'est pas une boule solide. Si par exemple, on met la Terre sur cette table en petit, ben, elle va s'effondrer comme un tas de sable.
Elle est maintenue
par la gravité en forme de boule. Ça s'appelle l'équilibre hydrostatique. C'est-à-dire que grâce à la force de gravité, toute cette masse est contenue en forme de boule. Et si jamais on la pose sur cette table, tout va s'effondrer comme un tas de sable, en fait.
C'est incroyable.
Les gens pensent que c'est quelque chose de solide, mais non, c'est comme...
C'est à cause du noyau, parce qu'il y a du feu dedans, ou explique-moi un petit peu.
Oui, c'est quand le système solaire s'est formé, en fait, il y a plein de roches qui se sont rentrées dedans, et avec toute cette force, la roche était en fusion. Et ça commence à former une boule de plus en plus grosse. Et après, la surface de cette boule de lave en fusion a commencé à se solidifier. Ça a fait la croûte terrestre. Mais après, en dessous de nous, il y a le manteau, la lave, et au centre, il y a le noyau qui est fait de fer. Parce que le fer, vu que c'est une matière très lourde, ça descend au centre. Et vu que ça tourne, la Terre tourne sur elle-même et que le noyau de fer tourne sur lui-même, ça génère un champ magnétique.
Ah oui, exactement.
C'est ce qui nous protège des vents solaires, des particules de l'espace.
Ah, dis donc, tu en sais des choses. Il faudrait appeler la NASA pour qu'il t'engage, parce que franchement, c'est incroyable tout ce que tu sais, tout ce qui te passionne.
C'est une passion depuis tout petit, c'est génial.
Mais c'est vrai, quand on voit le ciel, on a envie de comprendre, on a envie d'imaginer, de rêver quand on voit toutes ces belles étoiles. Surtout quand tu as des endroits clos où il n'y a pas de lumière extérieure, où tu vois le ciel et tout, c'est bien.
On a de la chance en Alsace, on a le champ du feu qui est juste à côté, on a un très très beau ciel, et en plus, vu qu'il y a le parking de la Serva, on peut se garer.
Après, c'est ce que tu fais de temps en temps.
Oui, c'est là-bas où je vais.
On parlera tout à l'heure de ton télescope, on va encore équiper une petite musiquette. Mets-nous voir un peu de musiquette E.T., mon cher Thomas. Tu reconnais cette musique, bien sûr.
Ah, bien sûr, oui.
Tu as dû le voir des milliers de fois.
C'est vrai que quand j'étais enfant, je le regardais souvent.
Et
puis Steven Spielberg aussi, très grand réalisateur.
Ouais, c'est génial ce qu'il a fait, ce monsieur, dans sa carrière. Mais après, E.T., on dit qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, tu penses que des petits bonhommes comme ça peuvent vivre ailleurs? Quand on voit maintenant sur les plateformes, sur les réseaux, tout ce que les gens mettent, publient, c'est des soucoupes volantes qui sortent de la Terre. Tu vois des petits bonhommes gris comme ça qui se promènent et tout.
Alors, il faut faire attention, il y a beaucoup de fake, bien sûr, sur les réseaux, pour pas croire tout et n'importe quoi, mais moi, en tout cas, de ma conviction, c'est j'espère qu'il y a de la vie ailleurs, sinon ce serait un beau gâchis d'espace, justement, mais pour l'instant, on ne sait pas, et pour l'instant, le seul endroit où il y a de la vie, c'est chez nous sur Terre. On pense qu'il y a de la vie probable sur deux lunes, Europe, sur Jupiter, en dessous de sa croûte de glace, on pense qu'il y a un océan d'eau salée réchauffé par le noyau de la planète, de la Lune. Et l'autre lune, c'est Encelade, une lune autour de Saturne. Vu qu'elle dégage des geysers d'eau salée et de glace, on pense qu'aussi, en dessous de la croûte de glace, il y a un océan d'eau salée qui peut abriter... Ça peut être des bactéries, pas plus que ça.
Des sirènes, peut-être.
Peut-être. Mais en tout cas, vie intelligente et vie normale, pour l'instant, on n'a aucune preuve, mais il y a des indices intéressants.
Et alors, un jour, tes parents, effectivement, ils ont cassé la tirelire, ils ont mis la... ils ont mis la main au portefeuille et t'ont offert un télescope parce que tu as réussi brillamment tes examens.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Donc, t'as eu un cadeau extraordinaire.
Oui, oui, ça fait longtemps que je leur mettais pas la pression, mais que j'avais envie d'avoir un télescope. Et j'étais pas très bon à l'école. Et quand j'ai eu mes examens, bah là, oui, ils ont cassé la tirelire. Et j'ai eu un beau télescope, un Newton de 200 mm d'ouverture,
wow,
avec une monture équatoriale avec des moteurs dedans.
Ouais, génial. Donc, c'est un gros machin, quoi.
C'est un bon télescope pour commencer.
C'est ouais, piloté par un ordinateur et...
Ouais, en fait, on a une petite télécommande et dès qu'on ouais, met le nom de l'objet, ben, le télescope, il y va tout seul.
D'accord.
Et après, il reste pointé sur l'objet.
Et donc, tu le vois dans un écran
Ben, au début, quand je l'ai eu, je regardais dans l'oculaire. Mais après, quand j'ai commencé à faire de la photographie, là, oui, on met l'appareil photo à l'endroit où on met notre œil et ensuite, on contrôle tout à partir d'un ordinateur ou d'une tablette.
Que disaient, par exemple, tes instits à l'école quand tu te posais des questions sur l'espace et tout? Je pense que tu étais beaucoup plus calé qu'eux, tu savais plus de choses qu'eux.
Ah oui, à l'école primaire, ça, je me rappelle, on nous emmenait quelquefois au planétarium, mais vu que j'y allais déjà souvent... l'animateur posait des questions aux élèves, bah, en fait, c'était à chaque fois moi qui répondais et mes profs, ils étaient « Mais comment tu sais tout ça? Ton âge, c'est incroyable. »
Alors, tu avais des bonnes notes? T'étais bien noté dans ces matières-là?
Dans cette matière-là, oui. Uniquement en matière.
Et alors, ce nouveau planétarium, tu l'as déjà vu, là, à côté de le boulevard de la Victoire?
Alors,
cette nouvelle structure?
Pas encore, mais je songe y aller bientôt. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'y aller.
C'est un gros camembert comme ça qui est
avec une toute nouvelle technologie de projection, ouais, c'est beaucoup plus pointu.
Ouais, j'ai vu récemment un beau spectacle.
Ouais, ça a l'air très bien, j'ai eu des très beaux retours.
La musique des Pink Floyd, c'est vraiment très intéressant.
Ouais, ouais.
Et donc ça fait rêver, quoi, encore et encore.
Ah ouais, ben déjà et avant, puis, avec le vieux système de projection, ouais, avec ouais, des engrenages et tout, ça donnait un peu un côté rustique et nostalgique. Et c'était déjà plaisant d'y aller. Et là maintenant, avec toute la nouvelle technologie qu'ils ont mis en place, c'est encore plus incroyable.
Et alors parle-moi un petit peu de ce que tu observes maintenant quand tu regardes dans ce télescope. Tu vas maintenant au champ du feu.
Oui, c'est
ça. Il fait nuit noire, t'as un ciel magnifique.
Oui.
Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te fait rêver encore aujourd'hui quand tu regardes Jupiter, les anneaux? Explique pas, c'est comment?
Déjà, sans parler de télescope, rien que quand on monte au champ du feu et qu'on voit le ciel à l'œil nu, on voit la Voie lactée qui est visible juste devant nous, c'est fantastique. En plus, en été, il fait
mais
bon.
Mais on la voit vraiment, la Voie lactée?
Ah ouais, ouais, à l'œil nu, sans problème, pas besoin de jumelles, juste attendre que nos yeux s'habituent à l'obscurité et on sort de la voiture et là, on est... Ah ouais, elle nous saute aux yeux.
Quoi. Ah
c'est
ouais,
super
ouais,
impressionnant. Et après, au télescope, ben, on peut commencer par ben, les planètes, Jupiter, Saturne. Moi, je me rappelle, mon télescope, le premier objet que j'ai regardé avec, c'était Saturne. On voyait les anneaux, on voyait l'ombre des anneaux. Sur la planète, on voyait les nuages. Jupiter, on voyait les bandes de nuages et ses lunes. Enfin, c'était incroyable. Après la Lune, on voit les cratères. Et après, ben, si on veut pousser le truc un peu plus loin, on commence à regarder les objets du ciel profond.
Ça veut dire quoi, le ciel profond?
Ben, c'est tout ce qui est hors du système solaire. C'est-à-dire tout ce qui est galaxie, tout ce qui est nébuleuse.
Au-delà de notre galaxie, tu veux dire tu
de
peux
notre
regarder...
système solaire.
Ah ouais, d'accord.
C'est-à-dire,
ouais,
par exemple, ben, d'autres étoiles, ah d'autres ouais, galaxies,
d'accord,
d'autres nébuleuses qui sont des restes d'étoiles mortes, par exemple, ou des amas d'étoiles.
C'est aussi des gaz comme ça, il y en a qui appellent le cheval ou je ne sais pas quoi.
Oui, là, par exemple, la nébuleuse de la tête de cheval.
C'est incroyable.
C'est une nébuleuse sombre qui prend la forme d'une tête de cheval, justement.
Mais et ça va devenir une planète un jour ou c'est... Comment c'est ça?
Il y a des étoiles qui naissent dedans en ce moment même, en fait. Juste à côté de la nébuleuse de la tête de cheval, il y a la grande nébuleuse d'Orion, dans la même constellation. Et en fait, on appelle ça une pouponnière d'étoiles.
Waouh, c'est beau!
En son centre, en fait, ben, vu qu'il y a tellement de gaz, et ben, le gaz commence à s'agglomérer avec la gravité et ça forme des nouvelles étoiles.
Des nouvelles étoiles. Alors, je sais que j'ai vu ça sur ton site, tu les photographies, c'est incroyable, c'est hyper précis, c'est... Mais t'as quoi? T'as un truc Hubble, là, pour voir?
Non, il n'y a pas besoin d'avoir un télescope qui coûte le prix d'une maison pour faire de belles photos. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut de la patience. Il faut de la technique. On ne peut pas juste mettre l'appareil photo et faire une photo, allez, comme ça, je vais essayer. On peut.
C'est pas instinctif. C'est pas instinctif.
Voilà, c'est pas quelque chose d'instinctif. Il faut vraiment mettre la main à la pâte, comprendre quoi faire. Et moi, j'ai passé des heures et des heures sur des tutos. Et j'ai été bien entouré.
Sur les quoi, les
Sur des tutos YouTube, par exemple, des forums où les gens expliquent quoi faire et ne pas faire. Mm-hmm. Et j'étais très bien entouré par d'autres astronomes amateurs. Qui m'ont conseillé, voilà. Et en plus, on a de la chance, le plus grand magasin de France d'astronomie, qui pour moi, on a de la chance, il est à Colmar.
Ah oui, ok.
Voilà, Optique Unterlinden, je ne sais pas si je
peux... Ah oui, non, mais je vois très bien, ouais, voilà. Tu peux le citer, mais bien sûr.
Voilà,
c'est là que tu achètes ton matos.
Voilà, c'est limite des amis aujourd'hui.
Et là, tu passes des heures et des heures.
À parler, qu'on soit amateur ou professionnel, ils nous conseilleront de la même façon. C'est des gens formidables.
Ah oui. Alors, tu parlais du Champ du Feu tout à l'heure. Je me souviens, d'ailleurs, je crois que j'étais avec ton père, Denis Becker. On était en tournage au Champ du Feu, où un monsieur dans un chalet assez cossu avait appuyé sur un bouton au grenier et le toit reculé. Et il avait, comme toi, certainement un télescope avec ordinateur. Et il la mettait sur la Lune, sur Jupiter, sur Mars et tout. Ouais. C'était juste impressionnant.
Oui, il s'est fait son petit observatoire.
Tu le connais, ce monsieur, non?
De nom, mais je ne l'ai jamais rencontré.
Ouais, ton père me l'avait fait rencontrer à l'époque. Et c'était incroyable quand je voyais le toit qui reculait comme ça, sur un rail, tu vois. Et puis après, il orientait ça sur les...
Ah, ça, c'est un peu mon rêve quand je serai à la retraite et que j'aurai ma petite maison.
Quand tu bosseras à la NASA et t'enverras des fusées dans le ciel.
Peut-être, mais en tout cas, ouais, ça, c'est mon rêve quand je serai plus vieux, d'avoir mon petit observatoire dans mon jardin.
Ah ouais, c'est génial. Tranquille, hein. On va se reposer un tout petit peu les oreilles. On va mettre une deuxième petite musiquette que tu vas apprécier, tu vas voir.
Ça marche.
Même Thomas, il frétille de bonheur quand il entend cette musiquette. Ça rappelle aussi toute sa jeunesse. Alors, toi aussi d'ailleurs, c'est ta jeunesse, ça.
Oui, les Star Wars, pas les anciens, mais ceux, l'épisode 1, 2 et 3, début 2000. Oui, là, j'étais en plein dedans. Je me rappelle quand j'avais vu l'épisode 1 au cinéma en 99. J'étais comme un fou.
J'imagine, c'est beau. Ça rentre dans ton contexte, tout ce que tu as vu et appris. Alors, parle-moi, tout à l'heure, tu me parlais du Champ du Feu, mais par moins 15 ou par moins 20, quand il y a de la neige, là-haut, tu n'y vas pas pour observer les étoiles.
Des fois, si. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le ciel en hiver, c'est le meilleur ciel, en fait.
Il est stable, tu veux dire?
Il est stable et aussi, il fait très noir et il fait nuit très tôt. Donc, on peut observer beaucoup plus longtemps. Et aussi, les objets célestes qu'on peut voir pendant l'hiver, ils sont très intéressants. Je parlais de la grande nébuleuse d'Orion tout à l'heure. Justement, en hiver, c'est pile le bon moment pour l'observer. Et ça m'est déjà arrivé de rester dans ma voiture où il faisait qu'il y avait moins 10 dehors toute la nuit.
Et tu avais ton télescope dehors, à l'extérieur?
Ouais, alors en fait, mon télescope, il est connecté à un petit boîtier Wi-Fi.
Game Boy comme ça?
Voilà, et en fait, je commande tout avec une tablette et je reste chaud dans ma voiture.
C'est bien.
Je dis à mon télescope, prends 120 photos de cet objet-là. Wow. Et il fait tout seul et je fais une sieste pendant une heure et demie. Je me réveille, je regarde si tout va bien, je me rendors.
Mais avec toutes ces photos, qu'est-ce que tu en fais alors avec ces photos? Tu 120 photos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais du montage après?
Alors en fait, quand j'ai pris 120 photos du même objet, en fait, je les compile en une seule. On appelle ça du stacking. Et parce que si je prends une photo, par exemple, de 5 heures, la photo, elle va être complètement blanche parce qu'il y aura trop d'exposition.
5 heures d'exposition?
Voilà, mais en fait, ce qu'on prend plusieurs photos de 2-3 minutes d'exposition et ensuite, on les empile et au final, ça nous fait une photo de 4 heures d'exposition en tout. C'est ça le but du jeu. Une fois qu'on les a empilés avec des logiciels spéciaux, En fait, on fait un petit traitement Photoshop, on enlève le reste de pollution lumineuse, on enlève par exemple un satellite qui passe dans le champ, on rehausse les couleurs, on fait des corrections, ce genre. Mais on reste naturel, on ne fait pas trop de corrections non plus.
Et ces photos-là, qu'est-ce qu'on en fait? Tu les gardes pas que sur ton ordinateur, tu les vends, est-ce que tu les exposes? Est-ce que tu fais des conférences avec tout ce que tu sais?
Alors, quand il y a des sorties publiques, par exemple, au Champ du Feu, ben, j'explique aux gens les bases et je leur montre qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériel. Sinon, je les publie sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram qui s'appelle Stellastro, avec un seul L. Et sinon, je
l'ai... Stro, comment t'écris ? Appelle-le Stella ?
S-T-E-L-A-S-T-R-O. Stellastro.
D'accord.
Comme ça se prononce avec un seul L.
Et donc là, on peut regarder tout ce que tu publies.
Toutes mes photos sont dessus, ouais, c'est ça.
Et t'as beaucoup de followers ? T'as beaucoup de gens qui te suivent ?
Ça commence doucement. Ça commence doucement. Je dois être un peu moins de 2000 pour le moment.
Ouais,
mais
c'est pas mal. Ouais.
Mais ça commence, ça commence.
Et alors, quand tu vois toute cette grandeur, cet espace, comment tu ressens ? Est-ce qu'on devient humble ? Est-ce qu'il y a de la humblicité derrière tout ça ?
Ah, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Le truc qui est fascinant, c'est je connais pas mal de choses sur le sujet, mais je suis loin de tout connaître aussi. Mais plus on creuse, plus on se pose de questions. Et c'est ça qui est fascinant, c'est en fait, face à toute cette grandeur et ce mystère, on se sent très humble et très petit, en fait. Et c'est ça que j'aime là-dedans. Et aussi, quand des gens ils me posent des questions, quand je leur montre mes photos... c'est l'émerveillement des gens aussi. Ça, c'est vraiment gratifiant, en fait. Et ça m'est déjà arrivé de montrer, par exemple, Saturne à un petit gamin qui n'avait jamais vu. Et en fait, il met son œil dans l'oculaire. Il fait « Ah, c'est où ? Je vois pas. » Et là, tout d'un coup, il fait « Ah !» Et là, je fais « C'est bon, j'ai compris. »
C'est génial. C'est génial ce que tu transmets. Je pense que la chair de poule, quand tu dis ça, c'est très joli. Ouais.
C'est ça.
C'est très sympa.
Juste l'émerveillement des gens, pour moi, ça me suffit. Une question de... Je fais même pas ça pour l'argent, ça m'intéresse
Tu
pas.
Fais ça pour ton plaisir.
Pour le plaisir.
Parce que c'est pas ton métier, c'est pas encore ton métier,
c'est
un autre métier.
C'est vraiment un hobby. Ouais.
C'est ta passion, quoi.
Exactement,
c'est une belle passion, en fait, de rêver avec les étoiles. En tout cas, je pense que ton père peut être très, très fier de toi.
J'espère.
Et j'espère qu'il voit de temps en temps ce que tu fais.
Je pense.
Et tu lui envoies des fois des messages quand tu vois une étoile filante, tu lui parles.
Surtout ça m'arrive, mais c'est surtout quand je vois les photos que j'arrive à faire maintenant, je me dis j'espère qu'il est fier de moi.
Parce que c'est lui aussi qui t'a, c'est un photographe ton père.
Oui, c'est lui qui m'a donné son appareil photo justement,
ouais.
Et j'ai commencé à faire des photos avec cet appareil-là, Canon 70D.
Et
les photos que j'ai réussi à faire avec cet appareil, ça commençait à être
sympa. Je me souviens bien de Denis, c'est un bon caméraman également, il faisait de belles images, c'est un architecte, il connaissait beaucoup de choses.
Oui,
en tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous.
Merci à toi,
Antoine, ça m'a fait vraiment plaisir.
Pareillement.
Et on envoie un joli message à ton père, parce qu'il nous manque et on pense souvent à lui.
Il nous manque à tous.
Ah ouais. Merci beaucoup ton invitation,
que
tu sois venu jusqu'à chez nous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.